Est-ce que vous êtes des chrétiens à la mode? Est-ce que vous êtes des born again Christians? On a l'impression aujourd'hui que pour être à la mode, il faut être un born again Christian, un chrétien né de nouveau. C'est la nouvelle carte de visite que l'on peut utiliser avec profit un petit peu partout aujourd'hui. D'ailleurs, si vous voulez être quelqu'un dans la grande nation voisine, il faut que vous soyez un born again Christian. Si vous voulez avoir une chance d'être élu président des États-Unis, il faut que vous soyez un chrétien né de nouveau. C'est devenu la carte de visite à la mode et nécessaire aujourd'hui pour la réussite, on dirait, dans les pays chrétiens occidentaux, dans ce qu'on appelle les pays riches. Et c'est intéressant parce que lorsqu'on entend le témoignage de ces gens qui se disent « Ah, moi, je suis né de nouveau », on a l'impression que c'est une expérience qui leur est tombée dessus d'un jour, un jour à l'autre, sans prévenir, une expérience qui les a pris par surprise et qui, en un clin d'œil, a fait d'eux quelqu'un de totalement différent, sans qu'ils s'y attendent, sans qu'ils le veuillent, sans qu'ils le cherchent. Et on se demande pourquoi c'est tombé sur eux et pas sur leurs voisins. Born again Christian, la nouvelle naissance. Mais je me demande si la Bible parle de la nouvelle naissance de la même manière que les chrétiens d'aujourd'hui en parlent. Parce que l'expérience que vivent ces gens me paraît étrange. J'ai l'impression d'être un croyant, je pense être attaché à Jésus-Christ, mais cette expérience ne m'est pas tombée sur la tête comme une tuile au coin d'un toit. Et je n'ai pas non plus une expérience semblable à celle de l'apôtre Paul qui, du jour au lendemain, se retrouve dans une situation totalement différente. Comment la Bible nous parle-t-elle de l'expérience de la nouvelle naissance? J'aimerais vous suggérer ce matin que la nouvelle naissance, c'est une expression qui désigne quatre éléments différents dont la Bible nous parle. Quatre étapes, quatre moments différents dans notre expérience religieuse avec Dieu. Le premier de ces ingrédients de la nouvelle naissance, c'est la repentance. Le mot « repentance », d'ailleurs, lui-même, dans le Nouveau Testament, signifie « changement d'état d'esprit », avoir un nouvel esprit. Et je vous propose de regarder dans le livre de Job ce que Job dit à ce sujet-là. Livre de Job, au chapitre 42, dans le dernier chapitre de ce livre, il est écrit ceci. « Job répondit à l'Éternel et dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai, tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Job exprime à la fin de son expérience de souffrance quelque chose de nouveau. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Job est en train de dire que son expérience spirituelle jusque-là était basée sur le témoignage des autres qui avaient accepté leur sauveur et sur le témoignage que ces gens avaient rendu auprès de lui. Ce témoignage a été suffisamment fort, suffisamment convaincant, suffisamment puissant pour que Job soit lui aussi un croyant solide. Malgré ses doutes, malgré la souffrance, Job est présenté dans son livre comme un homme intègre et droit. Et cette expérience, que j'appellerais presque une expérience de deuxième main, lui a permis d'être un chrétien solide. Cependant, après avoir traversé l'expérience que ce livre raconte, Job peut dire « Mon oreille avait entendu parler de toi. J'avais reçu le témoignage des autres, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Cette expérience est devenue parfaitement personnelle. Il sait en qui il croit, parce qu'il a eu avec Dieu un contact particulier, non pas le témoignage seulement que les autres ont donné, mais un témoignage que lui peut donner. Et il dit, « C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. À cause de cette expérience personnelle avec Dieu, Job, qui est un croyant déjà, passe à nouveau par une expérience de repentance. La repentance, autrement dit, est le fruit de cette expérience religieuse qui devient personnelle, qui n'est pas simplement la conviction développée dans notre cœur suite au témoignage des autres. Nous pouvons être des chrétiens solides pour qui il manque cependant cet élément de l'expérience religieuse. La repentance vient de la découverte de qui Dieu est véritablement. Dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 2 et au verset 4, l'apôtre interpelle ses lecteurs pour leur faire comprendre d'où vient la repentance. Épître de Paul aux Romains, chapitre 2, au verset 4, l'apôtre Paul est en train d'interpeller là ceux qui se croient investis du pouvoir de juger et de condamner les autres. Et il dit au verset 4, « Méprises-tu les richesses de sa bonté, la bonté de Dieu, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» Qu'est-ce qui nous pousse à la repentance? C'est la bonté de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Mais il faut pour cela le découvrir. C'est l'amour de Dieu qui nous pousse à la repentance. Or, dans quoi l'amour de Dieu est-il le mieux exprimé? Dans ce que Jésus a fait pour nous, dans le plan du salut au centre duquel se trouve Jésus et tout ce qu'il a fait, que ce soit avant sa venue, que ce soit lorsqu'il était sur terre, que ce soit maintenant dans le ciel ou dans ce qu'il va faire bientôt. C'est l'amour de Jésus qui exprime l'amour du Père. « Celui qui m'a vu a vu le Père », disait-il. Autrement dit, c'est Jésus et ce qu'il fait, et ce qu'il a fait et ce qu'il fera qui fait naître en nous la repentance. C'est dire que finalement la repentance est en rapport avec une personne. Cependant, lorsque nous pensons à la repentance, nous pensons d'abord au regret que nous avons par rapport à quelque chose qui a été fait. Par exemple, scénario numéro 1. Un enfant prend de l'argent dans le porte-monnaie de sa maman pour s'acheter des bonbons. Il le fait une fois, il le fait deux fois, et puis il se fait prendre, évidemment. Et puis, « maman, je regrette, je ne le ferai plus, je te promets. » J'ai pris un exemple simple pour que personne ne se sente visé. Et scénario numéro 2. Un enfant prend de l'argent dans le porte-monnaie de sa maman pour s'acheter des bonbons. Il le fait une fois, et puis il le fait deux fois, mais se dit, « Je ne peux pas faire ça, c'est pas bien. » La preuve, c'est que je l'ai fait en cachette. Alors il va voir sa maman et lui dit, « Maman, j'ai fait quelque chose de pas bien, j'ai pris de l'argent dans ton porte-monnaie. Je te promets, je ne le ferai plus. » Laquelle de ces deux repentances vous paraît la meilleure? Celle du voleur qui s'est fait prendre la main dans le sac? Ou celui qui vient et qui dit, « Voilà ce que j'ai fait. » La réponse est évidente. Le voleur qui a pris la main dans le sac va surtout regretter de s'être fait prendre. Il va surtout regretter les conséquences qui vont tomber sur sa tête suite à ce qui a été découvert à son sujet. C'est un petit peu la repentance de Judas, qui découvre finalement que son stratagème par rapport à Jésus ne marche pas, et que ce stratagème qu'il a mis en marche, qui pensait le mettre en évidence lui comme celui qui allait sauver la situation Jésus, ce stratagème en réalité est mortel pour son maître. Et Judas va être confronté à une situation tellement honteuse pour lui, tellement insupportable, qu'il mettra fin à ses jours. Est-ce la repentance? L'autre exemple de repentance que nous avons dans la parole de Dieu, c'est l'exemple de la repentance de Pierre. Et permettez que je vous lise dans le livre Jésus-Christ ce paragraphe concernant la repentance de Pierre. Ces jurements étaient encore sur les lèvres de Pierre et les cris du coq retentissaient encore à ses oreilles lorsque le Sauveur se détourna de ses juges pour regarder fixement le pauvre disciple. Au même instant, les yeux de Pierre furent attirés vers le maître. Sur le tendre visage de Jésus, on ne lisait aucune colère, mais seulement la pitié et la douleur. Le cœur du renégat fut percé comme par une flèche à la vue de ce visage pâle et souffrant et de ses lèvres tremblantes et de ce regard exprimant la compassion et le pardon. Alors, sa conscience se réveilla. Le regard de Jésus l'a amené à la repentance. Et le texte nous dit dans l'Évangile, il sortit et pleura amèrement. Pierre est retourné à Gethsémané. Pierre a pleuré là où Jésus a pleuré alors que lui dormait. Qu'est-ce qui a amené Pierre à la repentance? C'est de découvrir qu'en réalité, ce qu'il avait fait du tort, du mal à quelqu'un qu'il aimait. La repentance, c'est cela. Ce n'est pas regretter un acte particulier ou ses conséquences. La repentance, c'est regretter d'avoir fait du mal, d'avoir fait du tort, d'avoir fait souffrir quelqu'un que l'on aime. Dans le psaume 51, qui est le psaume par excellence sur la repentance, David disait ceci: « Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. » Et cette expression est intéressante parce que dans le cas particulier, on sait que David a péché contre Bathsheba, contre son mari qu'il a fait tuer, contre le peuple, contre l'armée. Mais dans sa prière de repentance, David va dire « Seigneur, j'ai péché contre toi seul. » Parce qu'il reconnaît que le plus grand mal qu'il a fait n'a pas été contre cette femme, contre ce mari ou contre le peuple. Le plus grand mal qu'il ait fait dans cette affaire, c'est à Dieu lui-même. Et c'est la raison pour laquelle il va dire « J'ai péché contre toi seul. » Parce que finalement, le mal que j'ai fait autour de moi aux humains n'est rien en comparaison du mal que je t'ai fait à toi, Seigneur. Ainsi, la repentance n'est pas en rapport d'abord avec une action que l'on a commise ou ses conséquences pour nous. La repentance, c'est d'abord le regret, la souffrance d'avoir fait souffrir quelqu'un que l'on aime. C'est la raison pour laquelle, dans le même psaume, David s'exprime à la fin, au verset 19, en disant « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » C'est là l'expression de la repentance. D'ailleurs, la repentance ne peut pas être en rapport avec une action ou avec une chose ou avec une punition que l'on risque de recevoir. Parce que si la repentance est en rapport avec cela, ça veut dire que nous sommes restés dans le système du salut par les œuvres. En réalité, le plan du salut, c'est un plan du salut par la foi en Jésus-Christ. Par conséquent, la repentance, qui est cette première étape dans ma marche vers Dieu, n'est pas en rapport avec des choses ou des actions, elle est d'abord par rapport à une personne, par rapport à la personne qui a souffert de mon péché, et c'est Jésus. La repentance, c'est en rapport avec ma relation avec Dieu, bien avant d'être en rapport avec une action commise. C'est là la première étape, le changement d'état d'esprit. La repentance, c'est finalement changer d'état d'esprit, avoir une nouvelle disposition d'esprit vis-à-vis de Dieu dans cette relation que j'ai développée avec lui. La deuxième étape dans ce processus de nouvelle naissance, c'est la confession. La Bible nous dit que Dieu sait tout. Regardez par exemple avec moi dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 4. Épître aux Hébreux, chapitre 4, le verset 13 dit ceci. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Dieu sait tout et Dieu voit tout. Et cela peut nous rendre très inconfortables en pensant à ce que nous ne voudrions pas que même Dieu sache. Par contre, D'autres trouvent ça très confortable et disent, mais puisque Dieu sait tout, ce n'est pas la peine que je lui dise, il le sait. Et ainsi nous développons peut-être cette idée parfois que, puisque nous n'avons pas à nous confesser à des êtres humains, nous oublions qu'il est nécessaire de nous confesser à Dieu. Et nous prenons pour acquis que puisque Dieu sait tout, il n'est pas nécessaire de lui raconter, de lui rabâcher ce qu'il sait déjà. Pourtant, nous sommes invités à confesser nos fautes à Dieu. Est-ce que Dieu en a besoin? Oui, il en a besoin parce qu'il a besoin que nous puissions développer cet état d'esprit de confession. Il a besoin de trouver cette mentalité de confession chez chacun d'entre nous. Et cette confession, finalement, elle est l'expression de la repentance. Regardez, par exemple, dans le psaume 32, qui est un autre psaume de repentance, ce qu'il est dit au verset 5. Psaume 32, verset 5. Il est écrit ceci. « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. » Il ne cherche pas à cacher, mais il préfère dire pour rétablir cette relation avec Dieu. La confession, c'est l'expression de cette repentance. Elle doit être cependant en harmonie avec ce que j'ai dans le cœur. Il doit y avoir harmonie entre mes paroles de confession et ce que j'ai dans mon cœur. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, disait « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » L'apôtre Paul mentionne par conséquent ici l'harmonie qu'il doit y avoir entre nos paroles et ce qu'il y a dans notre cœur. Notre confession doit être l'expression de ce qui vient de notre cœur pour être véritablement une confession. La confession, d'ailleurs, si elle est difficile à cause de notre péché, est rendue merveilleuse de la part de Dieu à cause du fait qu'il y a attaché une merveilleuse promesse. Cette promesse, j'aimerais que nous la lisions dans la première épître de Jean, au chapitre 1er et au verset 9. Première épître de Jean, au chapitre 1er et au verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà la clé finalement. La repentance qui va s'exprimer dans la confession se trouve être la clé par laquelle nous pouvons obtenir le pardon de tous nos péchés. C'est une bonne nouvelle que Dieu attend de notre part cette disposition d'esprit, cette disposition de cœur pour nous accorder ce que nous ne pouvons pas obtenir à aucun prix, si ce n'est par le prix que Jésus a payé pour nous. C'est une bonne nouvelle. La première étape, c'est la repentance. La deuxième, c'est l'expression de la repentance, la confession. Puis vient la troisième étape, la conversion. La conversion, c'est le fruit de la repentance. Jean-Baptiste, d'ailleurs, réclamait de ceux qui l'écoutaient ce fruit-là. Regardez dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3 et au verset 7. Comment Jean-Baptiste s'exprime à ce sujet-là? Évangile selon Matthieu, chapitre 3, au verset 7, il est écrit ceci. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père. » Jean réclame chez ceux qui se présentent pour le baptême les fruits de la repentance. Pas seulement des paroles, mais les fruits, c'est la conversion. La conversion, d'ailleurs, signifie changement de direction. Ou bien prendre la même direction que Jésus, que nous avons rencontré en cours de route. La conversion, cette troisième étape dans le processus de la nouvelle naissance, va nous amener à des changements, pas seulement d'état d'esprit, pas seulement de cœur, pas seulement dans l'expression de la vérité en ce qui nous concerne, c'est la confession, mais des changements dans notre vie. Et l'apôtre Paul, qui s'adressait aux Thessaloniciens, parle de cela. Regardez dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, dans le premier chapitre, comment il s'adresse aux membres de cette église. Première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 1er, nous lirons le verset 9. Il est écrit ceci. « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Comment la conversion s'est-elle manifestée ? Par l'abandon des idoles et par l'adoration de Dieu. La conversion, c'est donc une réforme. Ce dont nous avons le plus besoin, c'est d'un réveil, repentance, confession, et d'une réforme, changement. Il nous suffit de lire les textes des prophètes de l'Ancien Testament, que ce soit Ésaïe, que ce soit Jérémie, pour entendre constamment cet appel qui retentit de leur part, comme par exemple dans Jérémie chapitre 7, « Réformez vos voies et vos œuvres ». Dans Jérémie chapitre 8, nous trouvons la même notion. Au verset 5, il est dit « Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à des égarements perpétuels ? Ils persistent dans leur tromperie, ils refusent de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Ils ne parlent pas comme ils devraient. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ?» Le refus de se convertir. Constamment, les prophètes appellent le peuple de Dieu à se réformer, à changer. Changer d'attitude et changer de comportement. C'est la conséquence logique de cette relation qui a été changée avec Dieu. Il y a un quatrième ingrédient à la nouvelle naissance. Ce quatrième ingrédient, c'est l'engagement. Dans le livre des Actes, au chapitre 2, il est question de ces événements qui se sont passés au moment de la Pentecôte. Au moment où Pierre, en particulier, va prêcher le salut en Jésus, et à la fin de ce discours, il nous est dit dans Actes 2, verset 37, « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » La repentance a saisi leur cœur face à la prédication de la parole de Dieu. Et ils posent la question, que devons-nous faire ? Soyez baptisés. Il y a un engagement. Cet engagement, c'est cette notion d'alliance dont il est question dans l'Ancien Testament. L'alliance, c'est l'engagement entre deux parties. Lorsque l'on vit l'expérience de la repentance, de la confession, de la conversion, nous sommes invités à faire une alliance avec celui qui a permis de restaurer cette relation avec lui. Un engagement qui montre que l'on ne prend pas cette relation à la légère, quitte à la recasser quelque temps après. Et cet engagement dans le Nouveau Testament, c'est le baptême. Ou bien ce renouvellement de l'engagement, c'est la Sainte Cène. Et en particulier le lavement des pieds, qui nous est présenté comme ce qui est nécessaire de faire pour ceux qui ont été lavés, de sorte qu'ils soient entièrement purs. Engagement ou renouvellement de notre engagement. Mais la parole de Dieu nous invite à aller comme participants actifs dans l'alliance que Dieu propose à l'humanité. L'engagement. Où l'on est attaché l'un à l'autre, où il y a un lien particulier qui a été créé et qui ne doit pas être brisé. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 31, le prophète parle de la part de Dieu de cette alliance que le Seigneur propose à son peuple. Jérémie, chapitre 31. Au verset 33, il est écrit ceci. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Une alliance particulière où la loi de Dieu n'est pas seulement écrite sur la pierre ou dans un livre, mais dans le cœur. Et vous vous souvenez comment Dieu, s'adressant à son peuple par le prophète Ézéchiel au chapitre 36 de son livre, disait « Je ferai en sorte qu'ils observent mes commandements ». C'est autrement dit, lui qui, par l'intérieur, nous amène à être fidèles à cette alliance créée avec lui. Cette alliance, c'est celle que Jésus proposait à Nicodème. Lorsqu'il lui disait « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. » L'apôtre Paul, dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 17, disait « Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est l'expérience de la nouvelle naissance. Une nouvelle création. La nouvelle naissance n'est donc pas une expérience qui nous tombe sur la tête par hasard, sans qu'on l'ait cherchée et qui nous frappe. La nouvelle naissance, c'est en réalité vivre ces quatre étapes bibliques de la restauration d'une relation avec Dieu. La repentance, la confession, la conversion et l'engagement dans l'alliance avec Dieu. Seulement, pour vivre une nouvelle naissance, il faut être mort d'abord. Et c'est probablement là le plus gros problème que nous rencontrons. Encore une fois, pas de résurrection pour quelqu'un qui n'est pas mort. Jésus n'a jamais ressuscité les malades. C'est la raison pour laquelle Jésus a attendu avant d'aller à Béthanie, alors qu'on l'avait appelé. « Viens vite, ton ami Lazare est malade. » Et Jésus ne vient pas. Parce qu'il voulait donner à Lazare la grâce de la résurrection. Il veut pouvoir nous donner cette grâce de la résurrection, mais il n'attend que nous mourions à nous-mêmes pour nous la donner. La nouvelle naissance ne peut venir qu'à quelqu'un qui est mort. Et c'est probablement là ce que nous craignons le plus. C'est probablement là ce que le christianisme d'aujourd'hui craint le plus. Alors, sommes-nous des chrétiens à la mode ? Sommes-nous des « born again Christians » La réponse, elle est dans les Écritures. Est-ce que nous avons passé par ces différentes phases de restauration de la relation avec le Christ, de repentance, de confession, de conversion et d'engagement à son égard? La nouvelle naissance, c'est ce que le Seigneur voudrait pour tous ceux à qui il veut donner aussi la vie éternelle. Nous sommes tous candidats à cette nouvelle naissance. Sommes-nous prêts à mourir pour qu'il nous la donne ? Amen.